Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Oui. 10h33, on est de retour à CFAC 88.3, l'émission Le 9. Et je commence à reprendre mes aises. Je dis plus des aberrations comme plus tôt ce matin. On se réveille lentement, mais sûrement. Et ça va être Christine qui va nous parler des kidnappés par ICE, l'histoire de Jasmine Mounet.
Okay.
Oui, ben en fait, je vous fais un petit rapport là, sur une histoire qui a été publiée la semaine dernière dans The Guardian. Probablement une des raisons pourquoi l'Américaine à Paris n'a pas voulu donner son nom de famille aux journaux là, pour dénoncer ce qui se passe aux États-Unis. Jasmine Mounet, en fait, c'est une Canadienne. Donc, un petit recap, là, en fait... Même si vous pensez là, faire un voyage banal aux États-Unis, faites attention quand même. Même si votre visa est en règle pour aller travailler ou aller aux États-Unis, c'est quand même une barrière entre le Canada et les États-Unis qui est bien huilée. Là. On s'entend que passer la frontière pour aller aux États-Unis, c'est relativement facile et ça se fait sans trop de problèmes habituellement. Mais un jour, un simple contrôle à la frontière, ça peut vraiment tourner au vinaigre, là, comme on dit. Donc, une question posée et tout peut basculer. En quelques minutes, là, vous êtes en état d'arrestation, on vous enlève vos affaires, on vous fouille, on vous prive de vos droits. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas pour combien de temps vous entrez dans un système où les réponses sont rares et l'angoisse est présente. C'est ce qui se passe présentement à la frontière des États-Unis. Il y a plusieurs personnes qui rapportent, en fait, là, avoir soit essayé d'entrer aux États-Unis et se sont ramassées dans des camps de détenus ICE, qui est l'immigration aux États-Unis. Il y a eu un chercheur français, en fait, là, qui a voulu rentrer aux États-Unis pour aller faire du travail. Et puis, quand ils ont regardé son cellulaire, ils ont trouvé de l'information là, comme quoi il avait parlé contre Trump sur les réseaux sociaux. Il s'est vu refuser l'entrée.
Mais non!
Oui.
Non,
arrête. Oui, donc c'est vraiment...
Vraiment?
Là... Oui.
Mais après, c'est marrant que tu dis ça parce que c'est fou, mais je sais pas si vous avez vu, il y avait Zuckerberg qui avait annoncé le fait que la CIA... pouvez checker votre WhatsApp comme ils voulaient.
Oui, ben c'est ça. En fait, c'est techniquement ils peuvent saisir ton téléphone à la frontière, mais ils n'ont pas le droit de te forcer à l'ouvrir. En fait, là. Donc t'es pas obligé de donner ton code ou de donner ton pouce ou ton visage.
Oui, comme, comme tout.
Mais c'est sûr que je vous conseillerais si vous avez déjà des choses contre Trump et vous prévoyez aller aux États-Unis, peut-être prendre un burner phone ou de faire le ménage de votre téléphone avant de passer la frontière. C'est ce qui est arrivé en fait justement à Jasmine Mounet. Donc Jasmine Mounet, qui a grandi à Whitehorse, au Yukon, c'est une ville assez calme, là, entourée de montagnes, de nature sauvage, tout ça. Mais elle a toujours su qu'elle voulait avoir plus dans sa vie. Donc, très jeune, elle a quitté Whitehorse pour aller à Vancouver, qui est une ville dynamique, là, où est-ce qu'on peut avoir n'importe quelle carrière à peu près. Elle s'est dirigée là, comme étant actrice dans le cinéma et la télévision. Elle a été propriétaire de restaurants et de bars, investisseur dans l'immobilier. Elle a vraiment eu plusieurs chapeaux. Mais elle était toujours en quête là, de nouveaux défis. Et puis un jour, elle a découvert sa véritable passion, l'industrie du bien-être. Donc, elle a eu une opportunité là, assez incroyable. Elle s'est engagée pour participer au lancement d'une marque américaine de boissons naturelles. C'est un projet qui impliquait pour elle de déménager aux États-Unis, en Californie. Et elle est allée là-bas, en fait, il y a quelques années, et elle a commencé à bâtir une nouvelle vie. Elle a obtenu un visa de travailler en NAFTA, donc qui est un visa, en fait, qui est destiné aux Canadiens là, et aux Mexicains pour ceux qui ont des professions qualifiées là, pour faciliter là, l'entrée aux États-Unis. La première fois, elle n'a pas été... ça n'a vraiment pas quelque chose qui était facile à obtenir. Puis la première fois, elle n'a pas été capable de l'avoir, mais la deuxième demande, ça a été validée. Elle a été capable d'avoir son visa sans problème. Donc, c'est une nouvelle vie qui s'ouvrait à elle. Elle s'en va en Californie. Le soleil, le travail, l'enthousiasme, tout allait bien, tout allait sur les chapeaux de roue, comme on pourrait dire. Pendant plusieurs mois, elle a fait des allers-retours entre le Canada et les États-Unis sans aucun problème. Mais un jour, tout a basculé. Donc, un jour dernièrement, donc on parle dans le dernier mois, là, lorsqu'elle rentre aux États-Unis, comme d'habitude, il y a un agent frontalier qui lui pose des questions sur son visa. Pourquoi votre premier visa a-t-il été refusé? Pourquoi êtes-vous allée à San Diego pour la seconde fois? C'est étrange, vous ne trouvez pas? Donc, plusieurs questions qu'elle ne se faisait pas poser habituellement. Elle répond calmement. Elle dit que son avocat se trouve à San Diego. C'est pour ça qu'elle a été au bureau de San Diego pour faire son visa, qu'il l'avait accompagnée pour s'assurer que tout était en ordre. Puis l'agent, il n'a pas l'air convaincu. Donc, il réitère, là, ça semble louche, votre visa, ça n'a peut-être pas été correctement traité, donc commence à insinuer peut-être que son visa serait pas valide. Il examine les documents, il hésite, il réfléchit, puis il prend une décision radicale. Votre visa est révoqué, vous ne pouvez plus travailler aux États-Unis, vous devez rentrer au Canada. Donc, tout ce que Jasmine avait construit en Californie, tout à quoi elle s'était accrochée, sa nouvelle vie qu'elle avait commencée, ça s'est envolé en un instant. Mais bon, pas plus grave que ça, elle retourne au Canada.
Ben, quand même grave.
Ben, pas grave dans le sens qu'au moins, ben, à ce moment-là...
Tu contactes ton avocat, puis lui, il fait ses actions, puis tu vas le revoir, là, probablement.
Ben, c'est ça. Tu suis la logique, dans le fond. Elle refuse d'abandonner. Après plusieurs mois, elle décroche un nouvel emploi, parce qu'évidemment, n'étant plus aux États-Unis, elle a dû quitter son emploi. Mais elle décroche un nouvel emploi avec une entreprise du même secteur. Elle recommence les démarches pour obtenir un nouveau visa. Cette fois-ci, tout est en ordre. Elle reçoit son visa. Pas de problème. Elle retourne à la frontière de San Diego, persuadée que l'erreur ne se reproduira pas une deuxième fois. Par contre, elle arrive au poste frontalier, passe plusieurs heures à attendre pendant que les agents examinent son dossier. L'un d'eux, là, il est quand même bien gentil, puis il explique qu'elle aurait dû faire sa demande par le consulat, mais pas par le poste frontalier de San Diego. Mais bon, rien de grave, là, que c'était simplement à refaire différemment un petit peu. Mais il y a un autre agent qui s'approche puis lui dit « Venez avec moi ». Bon, elle le suit. Bon, évidemment, on écoute les agents frontaliers. Il lui demande de mettre ses mains contre le mur, on lui enlève ses chaussures, on lui enlève ses lacets, on lui prend son téléphone, puis toutes ces questions restent sans réponse, puis il n'y a jamais personne qui est capable de lui dire pourquoi elle vit tout ça. Et finalement, un agent frontalier lui dit « Vous êtes détenu. »
Ah
oui? Oui. Elle panique, évidemment. Pourquoi? Combien de temps? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Personne n'est capable de lui répondre. Elle reçoit tout le temps la réponse « Je ne sais pas ». On l'emmène dans une cellule glaciale, pas de matelas, juste une couverture en aluminium. Autour d'elle, il y a 5 autres femmes recroquevillées sur elles-mêmes, silencieuses. 2 jours passent, la lumière reste allumée en permanence. Personne ne leur parle, personne ne leur dit quand est-ce qu'ils vont pouvoir sortir. Après 3 jours, donc c'est quand même 3 jours plus tard, on l'autorise à passer un appel. Donc après 3 jours, elle réussit à avoir son premier appel. Elle contacte Britt, sa meilleure amie, parce qu'évidemment, de nos jours, on ne connaît pas les numéros de téléphone de personne par cœur. Donc elle savait seulement le numéro de son amie Britt par cœur. Donc, elle appelle son amie, lui donne les informations, lui demande de faire des recherches pour elle. Mais par la suite, au lieu d'être libérée, parce qu'elle pensait que, bon, je vais contacter mon amie, quelqu'un va être capable de me sortir de là. Au lieu d'être libérée, elle se fait transférer à Otay Mesa, qui est un centre de détention privé. C'est ici qu'elle réalise l'ampleur du problème. Elle n'est pas seule. Plus de 140 femmes sont enfermées avec elle. Aucune d'entre elles n'a de casier judiciaire. Il y a des femmes qui vivaient aux États-Unis depuis 10 ans, qui travaillaient, qui payaient leurs impôts. D'autres qui avaient juste dépassé leur visa de quelques jours. Donc, une étudiante, par exemple, qui, juste avant la COVID, avait un visa étudiant. Au moment de la COVID, à ce moment-là, son visa a expiré depuis 3 jours. Le temps de faire les arrangements pour retourner dans son pays, évidemment, dans le temps de la COVID, c'est un peu plus complexe. Son visa a expiré de 3 jours. Quand elle est revenue aux États-Unis, elle s'est fait arrêter. Un couple de pasteurs qui s'étaient trompés de route, donc ils étaient aux États-Unis, ils travaillaient légalement, ils étaient pasteurs, se sont trompés de route, se sont ramassés à la frontière mexicaine sans leur passeport, ils se sont fait arrêter. Toutes enfermées sans aucune explication, sans aucune réponse. Elle commence à comprendre que la détention, c'est pas une question de sécurité, mais une business. À chaque détenu rapporte de l'argent au centre privé qui gère les installations. Plus elle reste longtemps, plus ses entreprises s'enrichissent. Un matin, on lui annonce un transfert. Elle croit qu'elle va être libérée, mais non. À 3 heures du matin, on la menotte, on l'enchaîne avec d'autres femmes et on l'embarque dans un autobus direction l'Arizona. Donc, elle passe de San Diego à l'Arizona. C'est une citoyenne canadienne. On l'a mis dans un autobus. Il était 50 dans l'autobus. Il y avait la moitié qui c'était des femmes, la moitié qui c'était des hommes. Il était menotté au poignet, aux chevilles et à la taille. Ils ne savent pas exactement où est-ce qu'ils s'en vont. Ils s'en vont en Arizona. Le nouveau centre, elle découvre que les conditions sont encore pires. Mais par miracle, elle trouve un moyen d'envoyer un email sur il y a une espèce d'iPad sur le mur, puis c'est comme ça que les détenus peuvent communiquer avec l'extérieur. Elle peut envoyer un email à son employeur. Elle raconte, en fait, elle a les histoires là, de plusieurs personnes dans ce centre de détention-là en Arizona, parce que les femmes se rendent compte que c'est probablement elle qui va être capable d'être libérée en premier ou dans les premières, plus que c'est une résidente canadienne. C'est une Canadienne, pas juste une résidente, mais...
Oui, c'est ça, c'est une Canadienne.
À Pure Blood Canada, là. Donc, ces personnes-là, ces femmes-là commencent à lui donner des lettres pour donner à sa sortie des centres de détention pour que ces femmes-là puissent être entendues par leur famille, finalement. Il y a beaucoup d'examens médicaux qui sont passés. Elle raconte même qu'on leur fait passer des tests de grossesse, c'est humiliant. Elles ont seulement une toilette dans le milieu Donc, elles doivent s'accroupir au-dessus de la toilette. C'est vraiment le tout des tests vraiment humiliants. Il n'y a aucune réponse à chaque fois qu'ils ont posé des questions. À chaque fois qu'ils posent des questions aux gardes, c'est toujours « je ne sais pas », c'est toujours cette réponse-là. En fait, une fois qu'elle a réussi à contacter son employeur là, par courriel, son employeur contacte les médias et là, comme par magie, bon, ça explose dans les médias et elle est libérée comme par magie. Après 13 jours d'enfer, elle rentre enfin au Canada. Donc 13 jours sans aucune réponse, sans aucune condamnation, sans aucun recours légal. Elle avait un passeport légal canadien, des contacts, des ressources et pourtant elle est enfermée comme une criminelle. Alors, que dire de celles qui n'ont rien? Que dire de celles qui ne sont pas légalement aux États-Unis? Que dire de celles qui sont peut-être légalement aux États-Unis, mais qui n'ont pas toutes les ressources qu'elle, elle avait? Donc, elle a un message d'espoir, après tout, même avec ça. Elle a découvert la solidarité. Donc, les femmes s'entraident, partagent leur nourriture, se soutiennent dans les pires moments, malgré la peur et l'injustice. L'humanité persistait dans ces centres de détention. Son histoire, c'est celle de milliers d'autres prises dans un système où la dignité humaine est sacrifiée au profit d'une bureaucratie aveugle. Donc, avec les mesures de Trump qu'on voit présentement, là, dans la dernière semaine, il a révoqué en fait, le statut légal là, de plus de 500 000 Américains. Là. Ben, en fait, c'est pas des Américains, mais c'est 500 000 migrants issus de Cuba, Haïti, Nicaragua, Venezuela. Donc, ces personnes-là ont jusqu'au 24 avril pour quitter le pays. C'est toutes des personnes qui pourraient être prises là, dans le limbo un peu là, de la bureaucratie des centres de détention. Donc, c'est vraiment quelque chose à garder l'œil ouvert sur ces choses-là. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont être disparues, qui vont disparaître dans les mailles de la déportation, si je peux dire ça comme ça.
J'invite à tous Canadiens et Québécois à revisiter vos vacances, aller ailleurs qu'aux États-Unis. C'est ça, gardez l'œil ouvert si jamais vous avez des membres proches justement qui s'en vont aux États-Unis.
Bah, c'est dommage qu'on n'a pas trop de temps sur cette partie-là, mais ouais, ça aurait été... C'est fou, hein?
C'est aberrant.
C'est
mais
glaçant, même, j'ai envie de dire.
C'est glaçant. En
fait. Pour son histoire complète, là, aller sur The Guardian, c'est elle qui a écrit son texte.
Je vais y aller, là. Donc, mais c'est glaçant.
On s'en va en pause publicitaire. On se revoit après la pause.